Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour, heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour un nouveau Au fil des pages qui nous donne le plaisir d'accueillir Nicolas Bouzou, président d'Asterest, économiste et chroniqueur de renom. Nicolas Bouzou, bonjour.
Bonjour.
Heureux de vous retrouver
Merci.
Sur notre antenne. Alors, vous venez de faire paraître chez Jean-Claude Lattès un nouvel ouvrage dont le titre est extrêmement attrayant, « Le chagrin des classes moyennes ». 275 pages, 18 euros. Alors, première question, c'est quoi les classes moyennes et c'est quoi leur chagrin?
Alors, pour entrer directement dans le vif du sujet, vous avez une définition commune des classes moyennes qui a un avantage, c'est qu'elle peut être utilisée finalement de tout temps et partout dans le monde. L'idée étant de dire on appartient aux classes moyennes quand on peut accéder aux biens de consommation courante. C'est-à-dire qu'on utilise son argent non plus seulement pour se nourrir ou pour se vêtir, mais pour acheter de l'électroménager, un réfrigérateur, un lave-linge. Alors, on voit typiquement qu'on est dans la définition des classes moyennes telle qu'elle a pu apparaître dans les 30 Glorieuses. L'idée de classe moyenne est bien plus ancienne. Hein. En réalité, elle vient de la révolution industrielle et c'est quelque part quelque chose qui est peut-être pas très éloigné de la petite bourgeoisie de Marx. Donc, le concept est un concept du 19e siècle, mais disons que c'est dans les 30 Glorieuses en France que ce terme a pris son acception populaire. Alors, si on essaie maintenant d'être un tout petit peu plus précis et si on raisonne en termes de revenus, on peut dire que quelqu'un appartient aux classes moyennes quand il a un niveau de vie qui se situe au-dessus du seuil de pauvreté et en deçà du dernier décile de revenus. Alors, pour le traduire de façon monétaire, on va dire que quelqu'un est dans les classes moyennes quand il a un revenu compris, dans le cas de la France, entre 1 000 et 4 000 euros par mois. Voilà. Alors, cela dit, c'est une définition, bien évidemment, qui fait débat. Et ce qui est peut-être intéressant, c'est que beaucoup de gens se considèrent comme faisant partie de la classe moyenne. Et trop de gens se considèrent comme faisant partie de la classe moyenne. Si vous faites une enquête auprès de l'opinion publique française, vous allez vous rendre compte que 90 ou 95% prétendent appartenir à la classe moyenne. Ce qui, évidemment, n'est pas possible.
Alors, justement, les classes moyennes, on commençait à ouvrir le sujet en parlant des classes moyennes en France. Mais les classes moyennes, c'est aussi une logique monde.
Oui, je reviens à ma première définition. C'est-à-dire que la logique monde, c'est peut-être la logique selon laquelle on appartient à la classe moyenne quand on peut accéder aux biens de consommation courante.
D'accord, c'est ça la grande définition.
Et finalement, ce que je mets en exergue dans ce livre, c'est le fait qu'on a au niveau mondial une montée des classes moyennes, mais un rétrécissement des classes moyennes dans les pays riches. C'est ça qui est le plus perturbant. Très clairement, aujourd'hui, vous avez une croissance économique mondiale qui est tirée par les pays émergents, avec un développement absolument fantastique de la Chine, de l'Inde bien sûr, mais de beaucoup de pays d'Amérique latine, de pays du Maghreb, de pays d'Afrique subsaharienne même d'une certaine façon, je pense aux pays d'Afrique anglophone notamment. Et donc là, vous avez dans ces pays-là une montée de la classe moyenne.
Oui.
Et en revanche, vous avez une conjonction mondialisation-évolution technologique qui dynamite les classes moyennes dans les pays riches. Et ce chagrin des classes moyennes qu'on connaît en France, ça peut peut-être nous consoler d'une certaine façon, mais les Allemands le connaissent, les Américains le connaissent, les Britanniques le connaissent. En réalité, on le voit dans l'ensemble des pays développés.
Alors vous avez des formules choc, je vous lis. Une évolution dont les élites politiques refusent de prendre acte, mais que les principaux intéressés, la majorité des Français, subissent et ressentent dans leur chair. Alors, est-ce que c'est une réalité, ce déclin, on va dire, du pouvoir d'achat, ou enfin en tout cas économique des classes moyennes, ou est-ce que c'est la perception qu'en ont les Français, ce qui est autre chose?
Bien sûr. Alors, il y a les deux. Il y a une perception, très clairement, et je pense que c'est aussi la réalité. Il y a une perception, je raconte toujours cette anecdote en ce moment quand on m'interroge sur le livre, je vais faire une intervention dans une banque à Bordeaux, à Mérignac, et je prends le taxi qui me ramène à l'aéroport. Donc j'avais fait une intervention sur ce sujet-là, hein, sur l'impact de l'éclatement des classes moyennes sur le secteur bancaire. Et le chauffeur de taxi me dit, ce que je trouve très anxiogène dans notre pays, c'est le fait qu'il n'y a plus de milieu. Il n'y a plus que des pauvres et des riches. Donc, voilà, on voit bien que c'est une préoccupation. Et donc, moi, j'ai essayé de voir si cette perception, en effet, elle trouvait un écho dans les chiffres, dans les statistiques. Et très clairement, oui. C'est-à-dire que, si je schématise, on a en France, mais dans la plupart des pays développés, un quadruple phénomène. De plus en plus de riches, des riches de plus en plus riches, de plus en plus de pauvres, et des pauvres de plus en plus pauvres. Et au milieu, on a une classe moyenne non seulement qui s'étiole, mais qui plus est, qui ressemble de moins en moins à une classe au sens d'un ensemble de personnes homogènes. C'est plutôt une espèce de magma protéiforme avec des personnes dont les trajectoires de vie, les trajectoires professionnelles, les trajectoires personnelles même, sont de plus en plus changeantes et différenciées. Et c'est pour ça que finalement la thèse que je défends, c'est l'idée selon laquelle les classes moyennes sont un concept du passé, bien commode. Et c'est pour ça que je dis que les élites politiques ne veulent pas voir cette évolution, et je comprends qu'elles ne veulent pas la voir, parce qu'il faut bien comprendre que là, on est en train de mettre une croix sur notre contrat social tel qu'on l'a bâti depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est pas rien. Donc il est normal qu'on en soit nostalgique, et il est normal qu'on ait une sorte de conservatisme intellectuel. Mais néanmoins, je pense que l'idée de classe moyenne, et donc l'idée qui consiste à dire on va sauver les classes moyennes, finalement s'apparente à la recherche d'un paradis perdu. Moi ce que je dis, c'est que finalement les classes moyennes ont déjà éclaté. On a une société qui est une société extrêmement hétérogène. Alors, face à cela, ça ne veut pas dire que c'est la fin du politique, hein, on pourra en parler. Il y a des politiques publiques à mener. Mais en tout cas, cette idée selon laquelle il existe un corps social large, soudé, qui s'enrichit plus vite que le reste de la société, ça, je pense que c'est terminé. Pour des raisons qui se situent très en amont, finalement, de la formation des inégalités, hein, la mondialisation et la nature du progrès technique.
Alors justement, pourquoi ces classes moyennes sont chagrinés, et vous soulignez le rôle de l'État dans ce domaine et vous prenez quelques exemples, notamment le coût du logement et la rigueur qui s'abat sur les classes moyennes. Alors, le logement, c'est à la fois la partie la plus importante du patrimoine national pour tout un chacun, pour la France elle-même et pour chacun des particuliers, mais c'est donc aussi un souci et un chagrin.
Oui, surtout pour les jeunes classes moyennes, parce que la génération des Trente Glorieuses, elle, a pu acquérir un logement, on pourrait dire de façon un peu provocatrice, mais à bon compte. C'est-à-dire au moment où les prix du logement étaient bien évidemment beaucoup plus faibles qu'aujourd'hui, mais en plus, en s'endettant avec des taux d'intérêt réels négatifs, c'est-à-dire que les taux d'intérêt, finalement, qui étaient payés sur les crédits, étaient inférieurs à l'inflation. Donc on remboursait en monnaie de singe. Mais il est clair qu'il y a deux conséquences à cet éclatement des classes moyennes. Des conséquences purement économiques, hein, liées à la nature du capitalisme contemporain, donc la mondialisation, les innovations, etc. Et puis, des politiques publiques qui ont en quelque sorte enfoncé les classes moyennes. Et les politiques du logement, très clairement, en font partie. Surtout en France. Pour le dire très schématiquement, depuis 20 ans en France, on a voulu solvabiliser la demande, augmenter la demande de logement alors qu'il n'y avait pas d'offre. Typiquement, on a généré une augmentation des prix absolument fabuleuse. Alors, c'est bien évidemment, les politiques publiques ne sont pas les seules coupables de l'augmentation des prix. On a ici les politiques monétaires, le fait que les taux d'intérêt aient été faibles pendant la plus grande partie des années 2000 et encore aujourd'hui, ce qui a considérablement tiré sur les prix. Mais au-delà de ça, on a mené des politiques publiques en dépit du bon sens. Je vous donne un exemple très précis. Quand le président de la République, et d'ailleurs, il est revenu dessus, il a eu raison, mais avait décidé d'autoriser la déduction fiscale des intérêts d'emprunt immobilier, alors qu'on sait bien qu'en France, on n'a pas assez d'offres, il a augmenté la demande, mais si vous augmentez la demande sans toucher à l'offre, c'est-à-dire sans permettre aux villes de se densifier, vous générez une augmentation des prix qui se retourne contre ceux pour qui les mesures étaient faites, c'est-à-dire pour les classes moyennes qui voulaient éventuellement accéder à la propriété.
Mais alors, est-ce que ce phénomène de coût exorbitant d'un logement décent, bien sûr, vous précisez, est-ce que ce n'est pas surtout un sujet des grandes métropoles et de Paris?
Non, mais cette question de la métropolisation est très intéressante et je la traite d'ailleurs, j'y consacre un chapitre parce que de la même façon que vous avez des salariés dans les entreprises qui arrivent à bénéficier d'un contexte économique qui est un contexte économique extraordinairement singulier. La conjonction de la mondialisation et de cette révolution industrielle, on n'a vu ça que deux ou trois fois dans l'histoire de l'humanité. Et c'est bien de là hein, que naissent les inégalités. C'est le fait que, finalement, vous avez des salariés qui arrivent à utiliser ce contexte, qui en tirent parti et qui voient leur rémunération s'envoler. De la même façon, vous avez des territoires qui arrivent à tirer parti de ce contexte. Et si on tire le raisonnement jusqu'au bout, c'est en effet le phénomène de métropolisation auquel vous faites allusion. Dans le monde aujourd'hui, il y a des territoires qui bénéficient de la mondialisation et du progrès technique. Bangalore, Shanghai, Pékin, etc. Mais dans une moindre mesure, c'est vrai aussi dans les pays développés et c'est vrai en France. Si vous regardez la conjoncture économique des régions de France métropolitaine, par exemple, vous voyez qu'on a des écarts de conjoncture qui sont de plus en plus importants. Pour le dire schématiquement, l'Aquitaine bénéficie de la mondialisation, mais la Lorraine ou la Champagne-Ardenne sont restées sur le bord du chemin.
Autour de ce sujet du désespoir, en quelque sorte, des classes moyennes, il y a bien entendu des aspects sociologiques, des aspects politiques, et il y a aussi ce que vous appelez l'impossible équation fiscale, la fiscalité dont on va parler, dont tout le monde veut s'emparer à proximité des grandes échéances électorales. Alors, ce sacrifice des classes moyennes à travers la fiscalité, ça a quel sens ou à quelle histoire et quel avenir ?
Il ne vous aura pas échappé que la France se situe dans un contexte difficile en matière de finances publiques. Ce n'est pas le seul pays, ce n'est pas le pays dans lequel la situation est la plus dramatique. Mais enfin, donc nous n'avons pas le choix, nous sommes obligés de mener des politiques de rigueur ces prochaines années. Ces politiques de rigueur, elles peuvent revêtir, grosso modo, là aussi je schématise, mais deux formes, soit une augmentation de la fiscalité, soit une baisse de la dépense publique. Si on fait une baisse de la dépense publique, comme on l'a fait par exemple en réformant les retraites, je dirais que finalement les classes moyennes sont relativement épargnées, ou en tout cas elles ne sont pas plus pénalisées que les autres. On arrive à peu près à répartir la charge de l'ajustement sur l'ensemble de la population. Si on décide d'augmenter les impôts, c'est différent. Pourquoi ? Parce que si vous décidez d'augmenter les impôts, les bas revenus seront exemptés de la hausse de la fiscalité, ce qui est normal puisque de toute façon on peut considérer qu'ils n'ont pas les moyens de payer, mais les hauts revenus échappent aussi en grande partie aux nouveaux impôts. Pourquoi ? D'une part parce qu'ils sont plus mobiles, et d'autre part parce que, eh bien, au fil du temps, se sont accumulés en France un certain nombre de niches fiscales et de niches sociales qui permettent, par exemple, à l'impôt sur le revenu, il faut regarder le livre de Thomas Piketty qui sort en même temps que le mien et qui est tout à fait instructif, qui permet à l'impôt sur le revenu d'être dégressif à partir d'un certain niveau de revenu. Et donc, par nature, je dirais, toute la hausse de la fiscalité repose sur les classes moyennes. C'est pour ça que je crois que la manipulation de l'outil fiscal, dans ce contexte-là, est complètement explosive. Et d'ailleurs, je termine mon chapitre sur la fiscalité en disant le gouvernement qui arrivera à faire une réforme fiscale à la fois efficace et juste est vraiment composé de magiciens et il faudra lui tirer notre chapeau. Mais sur ce point-là, bon, à titre personnel, mais après une analyse que j'espère quand même étayée, j'en suis arrivé à la conclusion selon laquelle ça n'était pas le moment de faire une réforme fiscale. Parce qu'aujourd'hui, toucher à la fiscalité, c'est-à-dire, comme je le démontre, alourdir le poids de la fiscalité sur les classes moyennes, parce que je pense qu'on ne peut pas faire autrement, ça me paraît être socialement explosif. C'est pour ça que je pense que les politiques de rigueur doivent plutôt passer, idéalement, par une baisse de la dépense publique plutôt que par des recettes fiscales nouvelles.
Alors, une baisse de la dépense publique, certes, la grande idée qui semble maintenant rassembler à droite comme à gauche, c'est la TVA sociale. Alors, vaste sujet, bon, on connaît les reproches classiques que l'on peut faire à la TVA qui, en principe, tape d'abord sur les pauvres. Quel est votre sentiment sur ce sujet ?
Si on doit augmenter les impôts, il est très clair que ma préférence va à la TVA. Ça, je suis absolument clair là-dessus. Alors, la TVA sociale, c'est encore autre chose. La TVA sociale, ça consiste, si vraiment on prend le terme dans son acception originelle, ça consiste à transférer des cotisations sociales vers la TVA. Donc là, il n'est même pas question d'augmenter les impôts. Mais je crains que le débat aujourd'hui porte plus en réalité sur l'augmentation de la TVA en tant que telle que sur l'instauration d'une TVA sociale.
Mais la TVA au sens général du terme.
Mais si on augmente la TVA, il est clair que c'est sans doute la façon la moins nocive de faire les choses. Alors, on dit que la TVA frappe les plus pauvres. C'est pas tout à fait vrai. C'est pas tout à fait vrai. Parce qu'en réalité, on a des taux de TVA qui sont différenciés. On sait bien que l'alimentation, par exemple, est soumise à une TVA qui est faible. Pour continuer de différencier les taux, on peut parfaitement, en plus, je dirais, verdir un peu notre TVA, l'habiller d'une sorte de taxe carbone pour faire en sorte de différencier encore davantage les taux et pour essayer de faire en sorte que cette TVA soit redistributive. Mais enfin, vous voyez bien quand même à quel type de problème on se heurte. Et c'est pour ça que l'opinion publique est si sensible aux questions de fiscalité. Et c'est aussi sans doute pour ça que l'opinion publique est si sensible aux questions d'inégalité. Moi, c'est quelque chose qui me frappe. Si vous dites à une assemblée d'amis, de voisins, de cousins, j'en sais rien, que le pouvoir d'achat augmente tous les ans de 1 à 2%, on ne va pas vous croire. Pourtant, c'est vrai. Pourtant, l'INSEE est faite de gens compétents, indépendants, et s'ils nous disent que le pouvoir d'achat augmente de 1 ou 2% tous les ans, on a toutes les raisons de les croire. En réalité, si les gens ne le perçoivent pas comme ça, c'est parce que ces 1% masque des augmentations individuelles de 5 à 10% et des baisses individuelles de 5 à 10%. Dans les 30 glorieuses, quand les prix augmentaient de 2%, ça voulait dire que tous les prix des biens ou des services pris individuellement augmentaient de 2%. Quand le pouvoir d'achat augmentait de 4%, ça voulait dire que pour tous ceux qui étaient dans la classe moyenne, il augmentait de 4%. Aujourd'hui, on assiste à une sorte de, pardon, le terme n'est pas très joli, mais une sorte de démoyennisation de l'économie. Finalement, tous ces grands indicateurs moyens masquent des disparités individuelles qui sont de plus en plus fortes.
Alors, notre pacte social a fait la part belle aux classes moyennes. Vous dites que ce n'est plus le cas, vous venez de le démontrer, et vous précisez que la France, ou même certains notables, ont parfois du mal à boucler leur fin de mois, car désormais, nul n'est à l'abri.
Oui.
Donc, ça veut dire bon courage pour les politiques, hein, parce que au niveau des propositions, quelles sont pour vous les pistes qui vous paraissent prioritaires ?
Alors déjà, les politiques ne le traduisent pas encore de façon programmatique, mais ce que je décris là, ils le savent. Moi, beaucoup d'hommes politiques me disent, aujourd'hui, il est très compliqué, voire impossible, de tenir un discours général à l'opinion publique. Parce que, justement, les situations des uns et des autres sont de plus en plus différenciées. Ça a été un problème mais que les entreprises ont pu régler ou commencer à régler par des innovations marketing. Les politiques, eux, n'ont pas encore pu le faire. Alors, cela dit, en effet, dans une société qui est de plus en plus éclatée, je ne crois pas du tout que ce soit la fin des politiques publiques. Simplement, ça signifie qu'il faut aller sans doute au-delà des questions de redistribution fiscale, qui traite le problème très en aval, pour se demander comment est-ce qu'on peut faire pour faire en sorte que la société soit plus mobile. Si vous avez une société qui est une société en sablier, pour reprendre le terme de Jean-Marc Vittori, vous pouvez faire deux choses. Faire en sorte que le haut du sablier soit plus gros que le bas du sablier, et faire en sorte que ceux qui sont en bas du sablier puissent monter en haut du sablier. Et finalement, comme je n'ai voulu me fâcher avec personne, j'ai défini trois types de politiques dans ce livre, une politique de gauche, une politique de droite et une politique du centre. Alors, bien évidemment, c'est caricatural, mais ce que je dis, c'est que la gauche devrait se focaliser sur les questions d'éducation, qui sont absolument centrales. Et je rappelle que l'éducation, ça va de la maternelle à la formation continue. Et en France, sur toute cette chaîne de l'éducation, on n'a pas fait ce qu'on aurait dû faire ces dernières années. Ça, c'est un enjeu sociétal absolument essentiel qui, me semble-t-il, pourrait être ou devrait être dans l'ADN de la gauche. La droite libérale devrait travailler sur la question des rentes, parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup trop de secteurs qui sont fermés parce que le lobbying de certaines professions a été intense ces dernières années. On a mis en place des réglementations, des numerus clausus, qui permettent à ces secteurs de bénéficier de rentes de situation. Sauf que, je prends l'exemple des vétérinaires. Dans mon livre, je pose la question de façon un peu provocatrice, mais je m'étais étonné du fait que, je raconte cette histoire qui est une histoire vraie, quand j'emmène mon fils se faire vacciner contre la grippe, ça me coûte 50 euros. Quand j'emmène mon chat se faire vacciner, ça me coûte 80 euros. Et je me suis rendu compte du fait que la profession des vétérinaires bénéficiait de numerus clausus, de rente, et qu'elle était très fermée, alors même que beaucoup de jeunes souhaiteraient devenir vétérinaires. Donc il faut vraiment travailler sur ces réglementations. Ce serait l'agenda d'une politique de droite libérale. Et au-delà de ça, une politique du centre pourrait être une politique de relance de la décentralisation. Parce que dans une société qui est de plus en plus éclatée, il faut vraiment redonner du lien social, du lien politique, du lien économique au plus près du terrain. Et donc, je pense qu'il faut vraiment lancer un acte 3 de la décentralisation.
Mais vous pensez que politiquement, c'est audible de combattre la rente, comme le préconisait pour la droite? Est-ce que ce n'est pas pour le même sujet que pour les retraites, où tout réformateur était condamné à boire à la ciguë?
Oui, je pense que c'est audible, dans la mesure où, aujourd'hui, si vous dites, et ça a été un peu le péché, si j'en fais l'analyse froide et rationnelle, du président de la République, de sa politique économique, en tout cas au début du quinquennat, le gouvernement a fait tout un tas de choses très intéressantes avec lesquelles j'étais d'accord, mais l'idée qui a consisté à faire croire qu'on pouvait mener une politique très volontariste, en disant « je vais aller chercher la croissance avec les dents, je vais vous redonner du pouvoir d'achat », je pense que ça a généré des frustrations, parce que c'est plus possible. Dans une société qui est très éclatée, dans un contexte de concurrence fiscale, de mondialisation, etc., de mutation technologique très rapide, on voit que ça ne fonctionne pas. J'ai beaucoup réfléchi à ces questions parce que moi, je crois au rôle citoyen des économistes. Je crois que les économistes sont là aussi pour conseiller les hommes politiques et pour faire en sorte que les réformes indispensables soient acceptées par la société. Et je crois que finalement, j'en suis arrivé en y réfléchissant beaucoup à la conclusion naïve selon laquelle il fallait dire la vérité. Parce que si aujourd'hui, vous faites croire qu'on peut revenir, par exemple, à la société assez égalitaire des 30 Glorieuses, vous n'y arriverez pas et vous allez générer des frustrations absolument terrifiantes dans l'opinion publique.
Avec un effet boomerang terrible. Je vous cite, parce que vous terminez néanmoins sur une note optimiste, réaliste mais optimiste, je vous cite « Le chagrin des classes moyennes ne doit pas se muer en tragédie politique. Le monde change, pour le meilleur et pour le pire. C'est à nous, parents, citoyens, électeurs, de faire en sorte que ce soit autant que possible pour le meilleur. Les classes moyennes s'en sont allées. C'était le passé. Vive l'avenir. » L'avenir, c'est vous aussi qui allez le construire, puisque vous faites partie de la génération montante des économistes. Nicolas Bouzou, merci pour cet entretien. Jean-Louis. Je rappelle votre ouvrage qui vient de paraître chez Jean-Claude Lattès, Le chagrin des classes moyennes, par Nicolas Bouzou, qui est président de Asterès, 275 pages, 18 euros. Merci à vous, Nicolas.
Merci, Jean-Louis.